Comment venir à bout de tout ce qu'on doit faire? Nombre de gens sont venus me demander comment j'arrivais à travailler tellement tout en continuant à avoir l'air aussi dissipé. À quoi j'ai répondu, vous aimeriez bien le savoir, hein? Ce qui n'est pas une si mauvaise réponse que ça, compte tenu du fait que 9 fois sur 10, j'écoute même pas la question qu'on me pose. Il en demeure pas moins que dans toute l'Amérique, des centaines de milliers d'êtres humains se demandent comment j'arrive à assumer mes activités de peintre, d'ingénieur, d'écrivain et de philanthrope, alors que, s'il faut en croire les potins mondains, je passe le plus clair de mon temps à chasser à courre, à fréquenter des bals costumés en roi soleil, à calligraphier les mots Salut à toi à Californie en lettres vivantes à l'aide de 3000 écoliers de Los Angeles. Sa puissance de travail n'égale que son ardeur au jeu, disent-ils. Le secret de mon énergie et de mon efficacité incroyable n'est pourtant pas compliqué. Il repose sur l'application d'un principe psychologique bien connu dont j'ai poussé le perfectionnement à un degré tel qu'il est maintenant devenu presque trop perfectionné, qu'il me faudrait peut-être lui restituer un petit peu du côté rudimentaire qu'il avait initialement. Ce principe psychologique, le voici. N'importe qui peut accomplir n'importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu'il soit censé accomplir à ce moment-là. Voyons un peu ce que ça donne en pratique. Disons que j'ai 5 choses à faire avant la fin de la semaine. 1. Répondre à un paquet de lettres dont certaines sont datées du 28 octobre 1928. 2. Fixer des étagères au mur et ranger mes livres. 3. Aller chez le coiffeur. 4. Parcourir et découper une pile de revues scientifiques. Je collectionne toutes les informations possibles sur les poissons tropicaux avec l'idée d'en acheter un jour ou l'autre. 5. Écrire un article pour un journal. Or donc, le lundi matin, confronté avec ces 5 obligations menaçantes, rien d'étonnant que je retourne me coucher tout de suite après le petit déjeuner pour emmagasiner la quantité de force et de santé nécessaire à la dépense d'énergie presque surhumaine que je devrais utiliser. Mens sana in corpore sano, telle est ma devise. Quitte à rater une occasion de faire de l'esprit, je vais tout de même pas prétendre que je connais pas le latin. Le moins que je puisse faire est quand même de bien traiter le corps qui doit alimenter en carburant un esprit aussi insatiable que le mien. Du plus profond de mon lit, je dresse un plan de travail. Qu'est-ce qui est le plus urgent, me dis-je. Faut quand même que je réponde à ces lettres et que je découpe les articles scientifiques. C'est alors que ma méthode secrète entre en jeu. Usant d'un petit subterfuge avec moi-même, je me dis faut que tu commences par écrire ton article pour le journal. Et je prononce même cette phrase à voix haute en essayant de me persuader qu'il faut que j'écrive l'article le jour même et que le reste peut attendre. Je pousse parfois l'auto-supercherie jusqu'à faire une liste au crayon et à souligner premièrement écrire article pour journal en rouge. Cet acte-là entraîne quelques difficultés, étant donné qu'il n'y a jamais de crayon rouge sur ma table de chevet, à moins que je n'en apporte un le dimanche soir en allant me coucher. Une fois ceci mis au point, je saute du lit et je vais déjeuner. Je trouve qu'un bon déjeuner, bien lourd, avec un dessert crémeux comme je les aime, constitue une excellente préparation à une journée de travail. Ça vous évite d'être nerveux et surexcitable. Nous autres, travailleurs, sommes bien obligés de conserver notre sang-froid, sans quoi nous perdrions notre temps à passer d'une chose à l'autre et à nous agiter inutilement. Je m'installe alors à mon bureau devant ma machine à écrire et entreprends de tailler 5 crayons. Ces crayons pointus sont destinés à percer des petits trous dans le buvard du sous-main. Il faut une mine très acérée pour y parvenir. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire plus de 6 trous avec les mêmes crayons. Après quoi, je me dis, également à haute voix si possible, « Et maintenant, à nous deux, écrivons cet article. » C'est alors que la pile de revues que j'ai habilement placée sur une table voisine me tombe sous les yeux. Je tape mon nom et mon adresse en haut de la feuille de papier blanc et je me renfonce dans mon fauteuil. Comme les revues se trouvent à portée de la main, ça fait également partie de la mise en scène, et je jette un coup d'œil circulaire pour m'assurer que personne ne m'observe et m'empare de la revue se trouvant au sommet de la pile. Tiens, mais qu'est-ce que je vois? Dans le premier numéro, un article du docteur William Guéguep agrémenté d'abominables photographies. Peu de temps s'écoule avant que les pages ne se mettent à voler sous mes ciseaux. Ce qu'il y a d'intéressant chez l'Argiopelius, c'est qu'il a des yeux sur les poignets. J'étais déjà assez surpris d'apprendre qu'un poisson pouvait avoir des poignets, mais qu'il ait en plus des yeux à cet endroit me plonge dans une stupéfaction telle que c'est à peine si je parviens à découper la photographie. Que n'apprend-on pas, rien qu'en feuilletant les hebdomadaires illustrés? Bien sûr, c'est une occupation qui abandonnerait en cours de route nombre d'esprits moins bien trempés que le mien. Seulement, tant qu'il y a autre chose de plus important à faire avant, comme vous le voyez, je fais toujours durer le subterfuge en continuant à me persuader que l'article du journal est plus urgent. Aucun travail n'est trop ardu pourvu qu'il serve de prétexte à pas faire l'autre. De sorte qu'avant la fin de l'après-midi, j'ai dépouillé toutes les revues scientifiques et accumulé une petite pile bien nette de coupures. Dommage que vous puissiez pas voir la tête du poisson vipère, vous tiendriez les côtes. Me voilà dès lors obligé d'affronter la corvée de l'article à écrire. Cette fois-ci, je vais jusqu'à écrire le titre. Je le tape à la machine avec une satisfaction considérable. Jusqu'au moment où je m'aperçois que j'ai fait une grossière faute d'orthographe. Je suis alors obligé de retirer la feuille de papier et d'en mettre une vierge à la place. Je vais le faire quand mon regard tombe sur la corbeille de lettres. S'il y a une chose que je déteste, et il y en a un certain nombre, vous pouvez me croire, c'est bien d'écrire des lettres. Cependant, la perspective de devoir écrire mon article m'emplit d'une ardeur épistolaire qui touche à la frénésie et je subtilise sournoisement la première des missives restées sans réponse qui se trouve sur le dessus du panier. Je me dis qu'après m'être fait la main sur quelques lettres, je serai peut-être plus en train pour écrire mon article. De toute manière, il faut absolument que je réponde à cette lettre. Non, sérieusement, elle est d'un ami d'Anvers qui me demande d'aller le voir lors de mon passage en Europe pendant l'été 1929. Évidemment, il est peu probable qu'il soit déjà occupé à guetter l'arrivée des bateaux pour avoir ma réponse, mais après tout, la politesse a ses exigences. Donc, au lieu de mettre une feuille de papier vierge dans ma machine à écrire, j'y glisse un de mes beaux articles de papeterie personnelle et tape rapidement quelques lignes à l'intention de mon ami anversois. Me sentant alors en veine d'écrire des lettres, j'expédie tout le tas. Puis un peu mauvaise conscience en pensant à l'article, mais la pile d'enveloppes fraîchement timbrées, la petite liasse bien nette de coupures de journaux sur les poissons tropicaux contribue beaucoup à alléger mes remords. Demain, sans faute, j'écrirai cet article, cette fois, c'est décidé. Lorsque le lendemain arrive, fini de rire. Voilà une feuille de papier blanc glissée dans la machine avec mes noms et adresses proprement tapés dans le haut, le tout avant 11h du matin. J'ai décidé d'écrire quelque chose sur l'art de charmer les serpents et je suis déjà plus que satisfait du titre « Les soi-disant charmeurs de serpents ». Mais pour pouvoir écrire quelque chose sur cet art, il faut en connaître vaguement l'histoire. Et où aller chercher les informations requises sinon dans un livre? Peut-être que dans cette pile de livres qui se trouve là, par terre, il y en a un qui traite des charmeurs de serpents. Qui songerait à pointer vers moi un doigt accusateur si je m'en approchais avec l'intention avouée d'effectuer des recherches sur le sujet en question, hein? Aucun écrivain n'a jamais été tenu de puiser exclusivement dans sa mémoire la documentation dont il a besoin. C'est donc avec une conscience parfaitement pure que je quitte ma table de travail pour jeter un coup d'œil au titre des livres. Évidemment, il n'est pas facile de trouver un ouvrage sur l'art de charmer les serpents dans une pile de bouquins qui est restée entassée au hasard pendant des semaines. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est qu'il soit rangé sur une étagère d'où les titres seraient visibles au premier coup d'œil. Or, l'étagère ne se trouve-t-elle pas justement là, derrière les livres, dressée contre le mur? Ça ressemble presque à un commandement divin écrit dans le ciel. Ton article ne rédigera que l'étagère fixée et les livres rangés convenablement. Rien ne serait plus clair ni plus logique. Les lois de la physique ont décrété que pour fixer une étagère, il faut des clous, un marteau et des crochets auxquels la suspendre. On ne peut pas simplement la lécher et la coller au mur. Or, comme il n'y a ni clous ni crochets dans la maison, et s'il y en a, je ne sais pas où on les a cachés, il ne me reste plus qu'à mettre mon chapeau et à aller en acheter. Quelques scrupules que j'éprouve à devoir encore retarder la rédaction de cet article, j'ai néanmoins le sentiment d'être dans le droit chemin. Je m'aperçois alors que j'aurais bien besoin d'une bonne coupe des cheveux. Je pourrais faire d'une pierre deux coups, du moins de pierre deux coups, en m'arrêtant chez le coiffeur sur le chemin du retour. Je serais d'autant plus en forme pour écrire après avoir pris un peu l'air, n'importe quel médecin me le dirait. Je rentre donc quelques heures plus tard, beau comme un astre et fleurant bon lilas, muni de clous, de crochets, de journaux du soir et de beurre de cacahuète. Et en avant pour une petite collation et un coup d'œil rapide jeté aux journaux. Il pourrait s'y trouver quelque chose, une information m'obligeant à modifier ce que j'allais écrire, par exemple sur les charmeurs de serpents. Après quoi, l'étagère est en place, en deux temps, en trois mouvements, un peu de traviole, mais quand même en place, et les livres, rangés par ordre alphabétique, se trouvent prêts à fournir presque instantanément n'importe quelle référence. Il s'avère que dans le nom, aucun ne traite de l'art de charmer les serpents. Mais en revanche, j'en ai trouvé un qui me paraît extrêmement intéressant avec des reproductions de Hogarth et un autre sur l'évolution du 7e art qui mériterait d'être regardé d'encore plus près. L'industrie est réellement remarquable, ça, hein, le cinéma. Il se pourrait bien qu'un de ces jours, j'écrive un article là-dessus. Ah, pas aujourd'hui pourtant, car il est déjà 6h et je dois finir mon texte sur les charmeurs de serpents. Demain matin à l'aube, oui, mon commandant. Ainsi, voyez-vous, je suis venu à bout en 2 jours de 4 choses que j'avais à faire. Pour en arriver à ce résultat, il m'a suffi de prétendre que c'était la 5e qui pressait le plus. Le jour suivant, j'inventerai un autre truc et qu'il faut absolument démonter l'étagère, la remonter ailleurs par exemple. Le seul ennui, c'est qu'à ce train-là, il ne me restera bientôt plus rien à faire et je vais être obligé de me mettre à écrire mon foutu article dès le lundi matin.